La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour et bienvenue dans cette danse des mots qui, aujourd'hui, voudrait jongler avec la publicité, danser avec les slogans dont on se souvient parfois, hein, Soyez Gibbs, Just Do It, France is in the air, Life is a beautiful sport, nous dit-on, voilà des slogans en anglais, partiellement ou entièrement, des slogans donc qui devraient ne pas avoir droit de citer sur nos affiches et que pourtant parfois on entend qu'on peut lire à condition qu'ils soient traduits. Eh bien, ce matin, au ministère de la Culture et à l'initiative notamment de la DGLF-LF, de la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France, se tenait une réunion pour qu'on réfléchisse justement à ce qu'on peut faire, à ce qu'on a le droit de faire, à ce qu'il est intelligent de faire par rapport à la langue française quand on fait de la publicité. Eh bien, pour en parler, deux des intervenants qui étaient ce matin au ministère de la Culture, Jean-Patrick Chicquiard, qui co-dirige et qui a cofondé une agence de publicité, Rosa Parks, et Paul Petit, qui travaille à la DGLF-LF. Bonjour à tous les deux. Merci bien de venir donc dans cette danse des mots. J'étais ce matin à cette réunion tout à fait intéressante, et ce qui m'a intéressé, notamment, c'était de voir que vous avez rendu compte d'une série d'observations qui a été faite par l'ARP, c'est-à-dire l'autorité de régulation des professionnels de la publicité, à l'initiative, je crois, de la DGLF-LF. Alors, Paul Petit, est-ce que vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus sur ces analyses, sur ces observations ?
Oui, en repartant du rôle de la délégation générale à la langue française et aux langues de France du ministère de la Culture, dont une des missions pour l'État, c'est de suivre l'application de la loi du 4 août 1994, dite loi Toubon, relative à l'emploi de la langue française. Et donc cette loi qui notamment encadre ou veille au bon usage et à la présence de la langue française dans la vie sociale, dans l'espace public et donc évidemment dans la publicité qui est si importante dans notre quotidien.
Une loi d'ailleurs qui a beaucoup bénéficié de son âge parce que à l'époque où elle a été votée, elle a été assez moquée, de même que son initiateur qu'on appelait Mr. Allgood, alors que maintenant on s'aperçoit que c'est une loi quand même pleine de bon sens et qui est beaucoup moins extrême que ce qu'on a voulu dire quand on n'en avait pas lu les termes.
Oui, la loi a bien vieilli.
Absolument.
Elle a été comprise au fur et à mesure et puis sa philosophie est mieux entendue aujourd'hui. Elle a été caricaturée pas mal. Et elle a montré qu'elle était tout le contraire d'une crispation, d'un repli identitaire, un peu franco-centré. En fait, c'est une loi qui...
Mais c'est pas une loi frileuse.
Non, c'est une loi ambitieuse dont l'esprit était absolument d'intérêt démocratique. C'est-à-dire qu'il s'agissait de dire que chaque individu, en tant que personne privée, parle sa langue, ses langues, gère son bagage linguistique.
Absolument, il n'y a pas de police linguistique dans la cité.
Il n'y a pas de police de la langue.
On ne peut pas vous mettre en prison si vous parlez une langue qui n'est pas le français, si vous parlez mal le français. Et par exemple, on ne défère pas les bébés au tribunal sous prétexte qu'ils ne savent pas parler.
Ni les journalistes qui parlent mal. Ils peuvent recevoir des courriers courroucés de la part des auditeurs, mais il n'y a pas de police ni de réglementation de l'usage de la langue.
Oui, pour les journalistes, c'est un petit peu différent. Pour le service public, on est tenu quand même un certain nombre de règles.
Alors voilà.
Qu'on essaye d'observer, de temps en temps, on n'y arrive pas. Mais la plupart du temps, en tout cas, on fait un effort.
Alors, ce que dit la loi, précisément, c'est que d'un côté, il y a l'usage privé, celui-là est évidemment totalement libre, et qu'en revanche, s'agissant du service public, et des gens qui ont une mission de service public au sens le plus large, il y a des règles à appliquer dans l'emploi privilégié du français, qui, il faut le rappeler, est, nous dit la Constitution, la langue de la République. Et donc, de là découle l'esprit de la loi Toubon qui s'applique à la vie sociale aussi bien aux échanges, à la consommation, à la protection donc du consommateur, de l'usager, du salarié, avec quelque chose que l'on a appelé progressivement un droit au français. C'est-à-dire, j'ai le droit en tant que citoyen de m'exprimer dans ma langue, a priori le français, d'être compris dans un service public et d'avoir une réponse en retour qui soit elle aussi compréhensible. Ça ne dit pas autre chose qui ne soit dans cet esprit démocratique. Et donc l'enjeu pour la publicité, c'est est-ce que les annonceurs s'adressent à moi d'une manière que je puisse comprendre. Tout le mot-clé, y compris dans la loi, c'est l'intelligibilité.
Oui. Alors, quelle est la tendance, justement? Je vous demande pas des chiffres extrêmement exacts, mais est-ce que, justement, l'autorité de régulation a retenu beaucoup de mauvaise utilisation du français, beaucoup d'affichages, beaucoup de messages publicitaires à la radio ou à la télévision qui contrevenaient au règlement?
On a plutôt des nouvelles rassurante. C'est un peu le paradoxe. C'est-à-dire que on travaille à la DGLF en partenariat avec donc l'ARPP, l'autorité des professionnels de la publicité, depuis de nombreuses années. Il y avait eu une première enquête en 2009, une autre en 2013. On n'avait rien fait depuis. Et là, on a décidé au début de l'année 18 qu'il fallait actualiser nos chiffres et savoir à partir de choses très concrètes quel était le paysage. Mm-hmm. Parce qu'autrement, on entend et on a, nous-mêmes, en tant que usagers, promeneurs, de gens qui prennent le métro, l'impression que il y a beaucoup d'anglais. Or, c'est beaucoup plus équilibré que l'impression générale.
Grossit le trait d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, quand je dis vous, c'est en particulier donc la délégation que vous représentez ici. Ça peut être l'autorité de régulation. Est-ce que vous avez épinglé beaucoup de marques ou beaucoup d'agences de publicité qui travaillaient pour elle?
Alors déjà, l'ARPP a fait un très gros travail en analysant sur plusieurs mois de début 2018 quasiment 20 000 messages, 20 000 annonces sur tout support, dans l'audiovisuel, dans l'affichage. Dans la presse écrite et nouveauté cette année sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a maintenant des développements de campagnes qui prennent d'autres formes et qui se développent beaucoup sur y compris sur Facebook ou sur toutes sortes de réseaux sociaux. Donc 20 000 items analysés, y a-t-il manquement à la loi Toubon? On est de l'ordre de 5% de manquements qui concerne pour l'essentiel l'absence de traduction. Ça, c'est inscrit dans la loi. Il peut y avoir des messages en anglais, des mots anglais, des slogans.
Oui, parce que c'est la langue la plus communément visée par la loi.
Et à nouveau, il n'est interdit à personne de s'exprimer en anglais, en espagnol ou dans n'importe quelle langue, y compris dans la publicité. Ça n'est pas interdit. Ce qui est garanti au consommateur, c'est qu'il peut comprendre ce qu'on lui raconte et que la traduction est obligatoire.
C'est Laurence Alazar qu'on écoute dans La Danse des Mots, qui aujourd'hui est consacrée aux relations entre la langue française et la publicité. Alors, Jean-Patrick Chicard, vous représentez ici une agence, c'est l'agence Rosa Parks. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'on vient d'entendre? Et en particulier, est-ce que vous avez, en tant que publicitaire, une tentation de temps en temps pour les langues étrangères et notamment pour l'anglais? Est-ce que vous pensez que parfois, ça fera vendre davantage?
Alors, Déjà par rapport à ce qui a été dit par Monsieur Petit à l'instant, moi en tant que patron d'une agence de publicité qui est Rosa Park et finalement je pense représentant de beaucoup de mes collègues qui font le même métier que moi, on a beaucoup de respect pour la loi Toubon. Soyons clairs, c'est-à-dire que cette mission de service public qui est de rendre intelligible l'ensemble des messages qu'on arrive à communiquer aux gens, on ne peut qu'y adhérer. On ne peut qu'y adhérer et pour autant, nous, notre métier est de réussir à développer des campagnes ou des supports de communication qui soient finalement agréables à regarder, à lire, à entendre, à comprendre. Donc des choses qui doivent être intelligibles, qui doivent être digestes. Et c'est vrai que parfois le seul petit bémol qu'il peut y avoir, c'est que en voulant rajouter beaucoup d'informations, beaucoup de petits astérix, etc., on arrive à faire parfois des affiches qui peuvent être un peu surchargées. Donc je pense que là, on a une...
Indigeste, quoi.
On a une conscience un peu collective, je pense, de toutes les parties pour essayer de se dire, soyons intelligents et essayons déjà de transmettre au consommateur un message qu'il aura envie de regarder. Parce que...
Et qu'est-ce qui peut lui donner envie, justement? Est-ce que parfois, ou même souvent, il vous arrive de jouer sur les mots pour retenir l'attention de celui qui va regarder l'affiche et qui va lire le slogan?
Alors déjà, pour intéresser les gens, faut leur raconter une histoire qui soit vraie. C'est vrai que notre travail, notre publicitaire, est toujours d'essayer de retrouver une espèce de vérité qui peut exister dans l'esprit des consommateurs, et puis de trouver une manière de la transcender pour valoriser un produit ou une marque. Donc, je pense que l'intérêt des gens, il est capté parce que c'est un message qui va les toucher, c'est un message qui va les émouvoir, c'est un message qui va les divertir. Mais si on part pas d'une de leurs réalités, on n'a aucune chance qu'ils le regardent. Les Français sont en moyenne exposés à 2200 messages publicitaires chaque jour. Donc, là encore...
C'est gigantesque.
C'est gigantesque. Alors, Patrick Lelay avait dit à un moment...
Je absolument pas que c'était à ce point-là.
Une phrase qui était... nous, on cherche à utiliser le temps de cerveau disponible des gens, une phrase qui avait créé la polémique à l'époque. Pour autant, il y a quand même une forme de vérité dans cette réalité, c'est-à-dire que les gens sont face à des messages, pour la plupart, qui sont intrusifs, ils n'ont rien demandé. Ils ont des affiches dans la rue qui regardent.
Que de temps en temps, on se demande comment lire, mais que plus souvent encore, on se demande comment ne pas lire, parce qu'on lit malgré soi, et on regarde malgré soi, on est happé.
Alors,
mais
je pense que
happé quand même par les murs.
Oui et non, c'est-à-dire que si vous regardez un peu les comportements des gens, et je me suis amusé à faire ça la dernière fois sur un quai de métro, la réalité c'est qu'on a des affiches sur un quai de métro et la plupart des gens tournent le dos à ces affiches. Donc ça veut dire que
on a aussi des affiches d'en face.
Absolument, mais les gens dans leur réalité savent échapper au message si ça les intéresse pas. Alors sans dire que ça fait partie du paysage visuel.
Moi j'ai beaucoup de mal et de temps en temps je me retiens en me disant mais j'ai autre chose à faire qu'à lire ça. Et ben je me retrouve en train de lire l'affiche suivante.
Et la plupart du temps, c'est que si on arrive à vous émouvoir ou à vous toucher, vous risquez d'accepter de consacrer 10 secondes de votre temps pour réussir à interagir avec une marque.
Oui. Alors, est-ce qu'il y a des campagnes publicitaires dont la donne, dont le trait dominant est justement le jeu de mots, l'entrechat avec les mots, disons?
Oui, il existe de nombreuses campagnes publicitaires qui jouent avec les mots. Nous, à l'agence, on a la chance d'accompagner une marque qui est exactement dans cette réalité, qui est la marque Monoprix, puisque...
Alors, Monoprix, c'est une grande enseigne de distribution.
Voilà, c'est une grande enseigne de distribution. Ce sont des supermarchés qui sont pour la plupart en centre-ville. Et finalement, depuis 8 ans, nous accompagnons cette marque autour d'une idée qui est assez simple, qui est dans la consommation courante, les gens achètent des marques de distributeurs, souvent des marques qui sont d'un bon rapport qualité-prix, mais pour la plupart du temps dénuées un peu de tous les artifices marketing qu'on peut y adjoindre, entre des jolis emballages ou des très jolies photos. Et la plupart du temps, les marques de distributeurs étaient assez pauvres à regarder ou à observer. Nous, on est parti d'un constat inverse, qui est de dire, puisque ces marques, elles font partie du quotidien des gens, on doit faire en sorte de rendre ces marques agréables à regarder, et puisqu'elles passent beaucoup de temps dans vos placards, sur vos plans de travail, dans votre cuisine ou dans votre réfrigérateur, il est important finalement de réussir à trouver une connexion entre ces marques que les gens achètent, ces produits que les gens achètent et la réalité de ce qu'on va pouvoir y faire. Et donc, de ces packagings, on a fait plein de packagings pour Monoprix.
Les packagings, c'est quoi? Des emballages?
Des emballages, on peut dire ça.
Ce qui a marqué sur l'emballage, quoi.
Exactement, ce qui a marqué sur l'emballage et sur toutes les propositions de Monoprix, que ce soit une boîte de conserve, un paquet de céréales,
alors,
etc.
C'est ça,
nous avons joué avec les mots.
Oui, c'est l'intérêt de cette marque, c'est que si vous faites la publicité de Monoprix, vous pouvez faire la publicité de tous les produits qui sont vendus chez Monoprix et qui ont l'estampille Monoprix, que ça soit des mouchoirs en papier, des petits pois ou des chaussettes.
Absolument. Et donc, pour chacun de ces produits, on se fixe un objectif très important qui est de réussir à trouver, à faire danser les mots, comme vous le disiez fort élégamment, sur une proposition aussi bête que raconter une histoire sur des petits pois extra fins. Donc,
alors racontez-nous une histoire sur des petits pois extra fins, ou sur ce que vous voulez.
Non, mais sur ce qu'on veut, c'est-à-dire que je pense que quand on parle d'un produit, on va jouer avec les mots. Alors je vais vous donner quelques exemples de campagnes, ou en tout cas de thèmes qu'on a pu aborder. Par exemple, au moment de l'épreuve de philosophie du baccalauréat, qui est un moment important, nous avions eu l'audace, appelons ça comme ça, de mettre sur un 6 rouleaux de papier toilette une accroche qui disait « Je pense, donc j'essuie ».
Oui, c'est audacieux, en effet.
Alors, c'est audacieux, puisque effectivement, on fait référence à « Je pense, donc je suis », et en même temps, on
est
très, très en ligne avec la promesse de la réalité de ce à quoi sert des rouleaux de papier toilette. Donc, quand on fait « Je pense, donc j'essuie », on est dans un lien, dans une connexion émotionnelle avec les gens, et on le voit bien sur les réseaux sociaux.
C'est très élégamment dit.
Les gens sont très, très réactifs par rapport à ça, parce que la consommation peut les faire rire.
Mais ça veut dire aussi que vous êtes très, très réactif aussi, puisque que vous sortez ce slogan publicitaire juste au moment du bac philo. Alors, vous avez peut-être prévu le coup quelques semaines ou quelques mois à l'avance, c'est vrai, mais vous allez donner à voir ce slogan le jour où, à la radio, à la télévision, dans les journaux, on va parler de l'épreuve philosophie du baccalauréat.
Absolument. C'est-à-dire que on a ce qu'on appelle un calendrier éditorial. On regarde la réalité du calendrier de la vie des gens. On prévoit des natures de messages correspondant à ces moments. Et puis après, il y a l'actualité, il y a la vie de tous les jours, et ce qui fait qu'à un moment, un événement peut nous amener à réagir par rapport à une de ces réalités. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup d'agilité, ça demande d'avoir beaucoup de rédacteurs qui sont en permanence sur le qui-vive pour réussir à rebondir sur un thème de l'actualité. Mais c'est aussi en donnant ces pics de visibilité pour une marque que Monoprix rentre très vite dans le cœur des Français, ou en tout cas des gens qui vivent en centre-ville, en particulier les urbains. Et on voit très vite les réactions sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les consommateurs sont absolument fans de ce langage et de cette réalité qu'entretient Monoprix avec eux. C'est une des pages Facebook les plus suivies par les gens, et on a des dizaines, voire des centaines ou des milliers de commentaires où les gens encensent les petites phrases chez Monoprix et disent finalement je vais en magasin juste pour ça.
Ce qui veut dire que le signe distinctif de la campagne de Monoprix, c'est le calembour, ou en tout cas le jeu sur les mots.
Je préfère le jeu sur les mots que le calembour. On va dire que
je calembour, dis calembour peut être... parce que je pense comme j'y suis, je pense donc j'y suis, c'est un calembour.
Oui, enfin je pense qu'il y a plusieurs registres dans les artifices publicitaires qu'on peut utiliser pour faire danser les mots. Le calembour en est un, le jeu de mots en est un autre. Donc il y a beaucoup de manières de faire, mais en tout cas, ce qu'il est important de constater, c'est que la langue française propose une richesse de sens et de mots incroyables. Et finalement, nous publicitaires, rendre hommage à cette langue qu'on chérit tant, c'est un objectif important et qu'on essaie d'entretenir chaque jour.
Alors un autre exemple, puisque vous êtes spécialiste non pas uniquement du calembour, mais du jeu de mots.
Alors on parlait des petits pois tout à l'heure.
Alors les petits pois, c'est spécial parce que il y a dans l'esprit de beaucoup de gens qui sont plutôt jeunes, il y a un antécédent des petits pois. On se souvient tous, et quand je dis on se souvient tous les gens de mon âge se souviennent de « On a toujours besoin de petits pois chez soi », qui était une publicité sans marque qui avait frappé tous les Français à la fin des années 60.
Absolument. Donc, sur les petits pois, on a essayé de...
Et puis on a aussi « Ah, les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume bien tendre ». Non, les petits pois sont très porteurs.
Comme quoi, cette publicité a marqué les esprits et le temps de cerveau disponible que vous aviez à l'époque pour l'entendre a été retenu.
Ouais, il était plus grand qu'aujourd'hui.
Peut-être un exemple sur nos fameux petits pois qui vont être les héros de cette émission. Ça a été l'annonce qu'on a pu faire au moment de la victoire, ou en tout cas de la célébration de la victoire de l'équipe de France de football au moment de la dernière Coupe du Monde, puisque le jour de l'événement, avant même de savoir le score, on avait fait une annonce sur une boîte de conserve de petits pois qui disait « Impossible n'est pois français ». Donc on a joué avec les mots, on a transformé le pas français en pois français, et tout ça porté sur une boîte de conserve avec des petits pois, tout d'un coup fait qu'on la regarde d'une façon différente, on la regarde avec un œil amusé, on peut y avoir beaucoup de tendresse pour cette petite boîte de conserve.
Mais là vous êtes encore plus réactif que la dernière fois, que pour le dernier exemple, puisque on pouvait pas savoir que les Français allaient gagner la Coupe du Monde. On pouvait l'imaginer, peut-être qu'on pouvait l'espérer, mais c'était pas sûr.
Sauf que, en bon professionnel que nous sommes, nous avions prévu différents différentes options.
Et donc, vous aviez prévu donc l'option où les Français iraient jusqu'en quart de finale ou en demi-finale. Il y avait un slogan pour
Ça veut dire qu'à chaque possibilité, c'est comme une arborescence. Hein, à chaque possibilité, on a la version on a gagné, la version on a perdu, la version on s'arrête en quart de finale ou on passe en demi-finale. Donc c'est vrai que nous, c'est une manière de faire entrer les discours de marque dans l'actualité de la vie des gens, et c'est ça qui rend les marques si excitantes parfois, parce que elles arrivent à entretenir une relation avec leur public très fort.
Alors Paul Petit, vous qui êtes chef de la mission emploi et diffusion de la langue française, donc à la DGLF-LF, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que de temps en temps, vous qui êtes dans la peau du gendarme, même si vous êtes un gendarme, disons au front haut, est-ce que de temps en temps vous jubilez? Est-ce que parfois vous avez l'impression que justement la publicité peut être quelque chose qui est un moteur poétique ou en tout cas un moteur de création?
Oui, et c'était vraiment l'objectif, l'intérêt des rencontres de ce matin accueillies au ministère de la Culture, de montrer que nous n'étions pas dans une position, y compris la loi tout bon à la main, de censeur, de gendarme de la langue, etc., mais que il y avait un vrai intérêt à penser ensemble une démarche sur la langue, de montrer cette créativité avec les agences, avec les professionnels. Évidemment, la campagne de Monoprix que nous avions identifiée avec la RPP était tout à fait spectaculaire là-dessus. Donc ce matin, on a parlé poésie, finesse du langage, figure de style, paronomase, aussi bien que possibilité d'avoir une langue là, toujours inventive.
Là, je vous pose la question à tous les deux. Est-ce qu'il vous est arrivé de temps en temps d'être outré par un slogan en disant ah là ça non, là il va trop loin, là je me sens presque insulté?
Alors Paul Petit, notre souci c'est pas tant le message ou ce qui est dit, c'est simplement est-ce que la loi est appliquée, un peu bêtement.
Alors permettez-moi de vous poser la question d'un point de vue individuel. Est-ce que en tant que locuteur du français et en tant que être humain, de temps en temps vous dites ah non, alors là il va fort quand même? C'est rare.
J'ai pas d'exemple d'émotion de ce genre. Mon émotion, c'est quand je prends un magazine, un hebdomadaire, que je feuillette et que je vois une page sur deux de publicité, avec un slogan, une proposition, le plus souvent en anglais, et sans traduction. Parce que là, la loi est mise en défaut et ça ne peut pas fonctionner.
Le problème de la marque déposée, qui, elle, est inattaquable. Vous parlez des journaux et des magazines. Y en a un très ancien qui s'appelle L'Express. L'Express, écrit de cette façon-là, n'est pas spécialement un mot français. Bon, alors, puisqu'il nous reste quelques secondes, dites-moi, Jean-Patrick Chicard, si de temps en temps, vous avez renoncé à un slogan en vous disant non, ça sera pas productif. Là, on ira trop loin et en fait, on va aller contre le vent. C'est pas ça qu'on cherche.
Ah oui, non, mais ça, on fait ça en permanence. Enfin, je veux dire, nous, on considère que notre métier a une très forte responsabilité vis-à-vis des individus qui vont le recevoir. Donc, on a un certain nombre. Donc, on a nos créatifs qui sont assez libres de chercher à s'exprimer. Et en même temps, nous-mêmes, on fait un peu notre petit comité de censure. Et dès lors que ça va trop loin, on va refuser de pouvoir la présenter à notre client. Donc, oui, ça nous arrive dès lors que ça touche à l'intégrité des gens, des personnes, que ça remet en cause des thèmes sociétaux qui nous sont chers. On refuse de promouvoir, en tout cas, ce type de langage.
Merci beaucoup Jean-Patrick Chicard, merci aussi à Paul Petit qui nous parlait dans la danse des mots de publicité avant que, bien entendu, nous ne puissions accueillir la puce que nous apporte Lucie Bouteloup.
La puce à l'oreille.
Bonjour Yvan.
Bonjour Lucie.
Alors comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous avez la niaque pour affronter cette journée qui s'annonce plutôt chargée?
Tout de suite des questions difficiles, centrales, vitales. Est-ce que je sais moi si je l'ai la niaque? Ça vient pas comme ça la niaque, on a l'impression qu'on l'a ou qu'on l'a pas. Mais c'est pas vrai, ça se suscite, ça se travaille. Je vais faire de mon mieux pour l'avoir Lucie. Et vous?
Moi je l'ai la niaque, figurez-vous Yvan. Je dirais même que
j'espère
j'ai une
que
niaque
contagieux.
D'enfer.
Une niaque du feu de Dieu, une niaque de fou.
Un peu comme notre invité d'ailleurs, qui est en ligne avec nous, parce qu'il vient justement de faire paraître aux éditions Jouvence un petit ouvrage intitulé « 100 expressions qui donnent la niaque ».
On va rajeunir éditions de la Jouvence.
Je vous le promets. Alors Gilles Guiron, vous allez tout nous dire sur cette expression « avoir la niaque » dans quelques instants. Mais avant, comme d'habitude, on file retrouver nos petits CE1. Et cette semaine, c'est la classe de Clio Baruche à l'école Forest à Paris qui s'est prêtée au jeu de la puce avec un certain mordant, vous allez voir.
Avoir le trac, être maniaque, avoir une matraque, avoir très envie,
avoir envie de vomir,
vouloir quelque chose, mais peut-être vouloir la niaque,
quelque chose qui craque,
le cœur brisé.
Par exemple, quelqu'un qui se vante, on lui dit « Arrête, j'ai la niaque ».
Être content, arrête de me faire des glitchs, je me fais trop marrer, j'ai la niaque.
Avoir la trouille,
avoir des frissons.
Être méchant,
quelqu'un qui se bat avec quelqu'un d'autre et il y a quelqu'un qui dit « Arrête de le niaque ».
Arrête de te battre avec lui, je sais pas.
Par exemple, quand quelque chose se casse, ça fait crac. Et si on fait tomber quelque chose, on peut dire « Oh mince, j'ai fait tomber un niaque ».
Avoir quelque chose sur la tête.
La puce à l'oreille.
Alors Gilles Guiron, est-ce que ça craque? Est-ce que ça donne envie? Qu'est-ce que ça veut dire avoir la niaque?
Avoir la niaque, alors aujourd'hui c'est donc c'est avoir la pêche, c'est avoir en quelque sorte la volonté de vivre bien et de transmettre autour de soi son envie de vivre bien.
Être combatif, être prêt à se battre, on peut avoir la niaque de quelqu'un qui serait très motivé, qui serait compétitif.
Ah oui, oui.
Qui a la volonté de réussir, quoi.
Et voilà, aujourd'hui, l'idée d'avoir la niaque, c'est l'idée d'avoir effectivement l'envie de réussir un projet, mais pas forcément au détriment de quelqu'un. Hein. Voilà, ça c'est important.
Et puis c'est aussi le signe d'une bonne énergie vitale.
Ah, complètement. Hein. La niaque, hein, c'est un mot provençal. Ça vient du gascon exactement. Hein. Niaque, G-N-A-C, qui veut dire coup de dent, morsure.
Donc c'est une expression qui a un certain mordant, on est bien d'accord.
Ah,
au
oui,
départ, donc, au 19e, l'expression avait un caractère assez agressif.
Ah, complètement, complètement. Hein. Et puis après, le sens a évolué petit à petit. Hein. C'est-à-dire qu'on ne va retenir que le côté énergie positive dans un projet, dans une action. C'est surtout ça qui va rester.
Oui, être dans le mouvement, tourner vers l'avant, la volonté de réussir.
C'est être vivant avec l'ambition d'être le mieux possible avec son entourage, avec ses proches.
Rien à voir donc avec d'autres expressions qui utilisent aussi les dents, telles que avoir la dent dure ou avoir une dent contre quelqu'un.
Alors, au début, si.
Mais aujourd'hui, c'est plus le cas du tout.
Ah non.
Alors, est-ce que cette expression, elle est encore beaucoup utilisée, Gilles Guiron?
Ah oui, écoutez, elle est revenue à la mode au 21e siècle. Hein. Aujourd'hui, avoir la niaque, c'est une expression qu'on entend souvent.
Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme synonyme de cette expression? Avoir la pêche, vous disiez tout à l'heure.
Oui, avoir la pêche.
Avoir la patate.
Effectivement, de façon plus ordinaire, avoir la patate, ça résume très très bien l'idée de, effectivement, vouloir réussir avec ses moyens.
Eh bien, moi aussi j'ai la niaque, Gilles Guiron, et puis je recommande d'ailleurs à tous les auditeurs de se procurer votre ouvrage « Les expressions qui donnent la niaque » aux éditions Jouvence. Je vous remercie beaucoup, et puis je vous donne peut-être rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une autre puce à l'oreille. Au revoir.
Au revoir.
Eh bien, merci beaucoup à la puce. Merci aussi à Paul Petit et Jean-François Chicard qui étaient dans la première partie de cette danse des mots proposée par le réseau Canopé et par RFI. Véronique Durand.